C'est vrai que vous m'avez demandé de parler ce matin, donc je ne veux pas lasser. Bon, alors effectivement, moi, j'étais beaucoup plus scolaire. Je commence par les questions et je vais essayer d'y apporter un certain nombre de réponses. Mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, parce que justement, dans l'expérience du master de Montpellier, donc, qui existe depuis 2001, alors l'équivalent de la DAFOP, la DAFPEN, pour l'appeler par son nom, a été consommatrice, cliente de formation de ces formateurs. Je pense que vous avez raison de le souligner. Il y a dans le monde de l'enseignement un nombre très élevé de personnels intermédiaires qui se sent un peu en déshérence sur ces questions-là et qui profite, et à l'heure actuelle, il le fait sans moyens reconnus, sans droit individuel à la formation, donc un mercredi, enfin en sacrifiant le mercredi sur 2 ans et en faisant des efforts énormes. Bon, il y a du plaisir, mais il faudrait aussi qu'il y ait de la reconnaissance institutionnelle. Alors quels sont les effets attendus? Ben, c'est justement de changer le système. Et c'est pour ça que dans le changement du système, il faut travailler sur cette priorité. Alors à l'UFM de Montpellier, avec les deux directeurs qui se sont succédés depuis que je n'y suis plus, j'ai constamment dit, attirer l'attention sur le fait qu'il fallait anticiper et faire en sorte que les formateurs puissent avoir le master avant. Par exemple, dans les formations infirmières, les étudiants qui vont sortir en 2013 vont sortir avec le grade de licence. Donc d'ores et déjà, les formateurs, eux, sont sur le fait d'acquérir un master. Hein. Donc effectivement, je crois que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça peut avoir du bon aussi si on met ça. Parce que l'idée, c'est de dire que la politique de formation des formateurs qui a été si décriée et même souvent l'objet de négligence que je rappelais ce matin, cette politique est celle qui assure une amélioration du service à l'élève et aux familles. Il faut commencer par ça. On a, je dis toujours, quand on a créé les IUFM, on a essayé de passer le sable du désert à la petite cuillère, alors que finalement, une autre option aurait pu être sur une politique de formation de formateurs, parce que le changement réel et durable dans un système d'éducation et de formation dépend de cette architecture. Hein, j'ai essayé de le développer ailleurs. C'était dans ma note de synthèse d'habilitation. On essaie de regarder comment se passe le changement durable et on voit qu'à chaque fois, c'est parce qu'il y a un réseau de personnes au stade décisionnel qui sont positionnées ainsi. Alors la deuxième chose, mais je vais être très bref là, c'est, on en a parlé, on n'a pas utilisé le terme, c'est qu'on est un peu dans la fin de l'isomorphisme. C'est-à-dire que cet isomorphisme voulait qu'un bon enseignant allait être un bon formateur, qu'un bon infirmier allait être un bon formateur et qu'un bon éducateur spécialisé allait être un bon formateur d'éducateur spécialisé. Je me rappelle, dans mes premiers temps de formateur formé sur le tas, l'isomorphisme, on n'avait que ça à la bouche. Alors, il y a des choses intéressantes, effectivement. Il ne faut pas construire un système extrêmement vertical. Il faut rester en horizontalité et en parité avec les personnes qui sont en formation. Mais on a des compétences spécifiques à mettre en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la proposition? Ben, moi, je propose de faire de la rétro-ingénierie. Donc, en termes un peu plus simples, c'est justement du démontage, de la déconstruction, de l'analyse, au sens étymologique du terme, de ce qui se fait dans le métier. Hein. On a une recherche qui est financée par l'IRTS pour essayer de réformer la formation des éducateurs spécialisés entre ce qu'ils font au début de leur carrière et ce qu'on leur a fait apprendre pendant leurs années à l'IRTS. Et là, il y a quand même un gap, comme disent les Anglais. Alors, l'autre chose, c'est l'amélioration des pratiques professionnelles. Ce matin, on parlait de qualité. Hein, de qualité. Et donc, c'est le cycle que Marguerite Alté appelle pratique, théorie, pratique. Moi, j'appelle ça plutôt, parce que j'essaie de conditionner mes étudiants, je leur demande action, ils disent tout de suite réaction, donc on part sur réflexion. Réflexion, théorisation et retour à l'action. C'est ça qui est intéressant. n'est pas uniquement d'analyser l'action, c'est d'être capable de réinvestir dans l'action. Alors, à ce propos, il y a une nouvelle aussi. Moi, je fais un peu de publicité. On va sortir avec donc Marguerite Altet, Claude Lessard, Léopold Paquet et Philippe Pernoud, le résultat de nos travaux pendant quelques années avec une douzaine de formateurs, donc français, québécois, belges et suisses, avec une question provocante aux éditions de Bock. L'université peut-elle vraiment former les enseignants? Vous voyez, on a un petit peu quelques doutes sur les évolutions à faire subir. Donc, il me reste encore 5 minutes. L'amélioration de la qualité perçue, ça, c'est un point que j'ai... Alors, l'articulation à la recherche, qui était la deuxième grande question. Et donc, il a été rappelé ce matin que les recherches en éducation devaient être contextualisées. Mais alors, les recherches en éducation, si je me rappelle bien, le pourcentage que Prost avait trouvé, c'était 0,03% de la masse salariale. Hein. Donc là-dessus, vous essayez de regarder combien il y a pour les recherches en formation. Donc on est à un peanut. L'idée, c'est d'essayer de déterminer, alors tu l'as fait, et comme ça, ça me fait gagner du temps, les gestes professionnels de l'enseignant. Donc tu as oublié dans l'énumération les journées sur les gestes professionnels en juin 2008 à Montpellier, organisées par le laboratoire. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement... francophones, mais aussi dans les pays anglophones, pour essayer de comprendre la taille des instituts, les programmes de formation, les formateurs, les modalités d'ingénierie, et puis surtout, essayer de voir qu'il n'y ait pas trop de turnover chez les formateurs. Alors, ces masters, ils sont intéressants pour nous, parce que ça va être un vivier, et c'est déjà un vivier de chercheurs, de nouveaux chercheurs qui s'appliquent à chercher dans les situations les éléments de la pratique qui peuvent être des objets d'amélioration. Par exemple, à l'UFM de Montpellier, sur la base de son master recherche, la transformation du stage de responsabilité filée, là, vous savez, qui a été inventé pour la paix sociale avec les directeurs, bon, mais c'est un magnifique outil de formation. Mais encore faut-il passer d'une situation d'alternance juxtapositive où les gens sont tous les lundis dans la classe à une situation de formation où on va travailler sur ce qui s'est passé dans la classe et dans l'école. Voilà. Donc on peut penser, alors ça sera une discussion aussi au niveau de la recherche, qu'on pourrait aller, comme les Québécois, jusqu'à envisager la mise en place de doctorats professionnels. Ça fait 25 ans qu'ils essayent. Hein, j'en ai discuté avec Vander Maren récemment. Bon, peut-être qu'ils vont y arriver, mais les doctorats professionnels, c'est pas une idée inintelligente, dans la mesure où, par exemple, pour être psychologue au Québec, il faut avoir 8 ans d'études. Donc il faut avoir un doctorat. Alors, la démarche induite et la reconnaissance institutionnelle, je suis encore dans mon temps. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que il y a le paradoxe de prendre des étudiants en formation initiale. Je l'ai légèrement évoqué ce matin. J'y reviens cet après-midi. Je ne pense pas qu'il faille prendre des étudiants qui sont en formation initiale pour devenir enseignants, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le même projet. Psychologiquement, les choses ne sont pas... Bon. Mais des gens qui veulent démarrer directement dans les métiers de la formation, on a un grand nombre d'exemples de personnes qui sont passer de leur stage de master à un emploi de formateur responsable de formation dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les chambres d'agriculture et dans des organismes privés, des start-up et des choses comme ça. Donc c'est pour les métiers de l'humain, comme dit Mireille Sifali, qu'il est difficile à 22-23 ans, hein, moyenne d'âge d'un PE2, de passer directement à la formation des autres qui ont le même âge. Mais dans d'autres formes d'organisation, donc je suis curieux de voir ce que vous ferez avec la deuxième spécialité, je pense qu'en formation initiale, les gens peuvent entrer directement à 22-23 ans dans les organisations et avoir des places de responsabilité. Alors, pour ce qui est donc de la formation continue, alors c'est beaucoup plus évident, et puis maintenant on commence à avoir suffisamment d'éléments, il y a des évolutions de carrière extrêmement intéressantes, Et les métiers de la formation, ce n'est pas uniquement l'ingénierie de formation. Je n'ai pas le temps de développer. Mais il y a beaucoup de choses d'évolution de carrière qui ne sont pas forcément liées à la formation, mais pour lesquelles le master suffit. Et tout dernier point, c'est la reconnaissance professionnelle. Donc c'est bien d'être client, c'est bien de former des formateurs, mais je dirais que ce qui nous manque à l'heure actuelle, à part cette capacité d'évolution de carrière, qui est une forme de reconnaissance, c'est qu'il y ait une reconnaissance authentique. Alors on voit très bien la manœuvre, et puis je l'approuve, moi personnellement, politiquement je l'approuve, pas telle qu'elle a été menée, mais je l'approuve, la masterisation c'est une bonne chose, le fait d'envisager la masterisation. Ensuite, il y a éventuellement une reconnaissance financière, puisqu'elle a été envisagée pour les gens qui sont en formation initiale, mais je rappelle qu'il y a tout ce qu'un ministre a jadis appelé le stock, et qui fait vivre le système, et qui va demander, s'il y a de la reconnaissance, encore plus à entrer dans le processus.